Christophe Théobald, il y a un verset dans l'Épître aux Galates de saint Paul. « Dès le sein de ma mère, tu m'as appelé. » Est-ce que dans ce verset, vous vous y retrouvez?
Ah, je dirais oui, ce verset, je dirais que l'apôtre Paul cite, parce que ce verset vient évidemment du prophète Jérémie, hein. Je me suis très tôt identifié à ce verset et très tôt identifié à la figure de l'apôtre Paul. Vous savez, je suis allemand d'origine, Renan, je suis né à Cologne et j'ai commencé des études de théologie dans le séminaire universitaire à Bonn et je cherchais ma voie spirituelle. Et le père spirituel de l'époque, il m'a dit, toi, il faut que tu étudies l'apôtre Paul. Je pense que c'est un peu ta figure d'identification. Et ce que j'aime bien dans la figure de l'apôtre Paul, précisément parce qu'il est apôtre, c'est pour ça que je suis devenu prêtre et jésuite, il est itinérant, un peu fondateur quand même de communauté, et il réfléchit sa foi. Et donc il est en même temps, pourrait-on dire aujourd'hui, théologien, mais c'est une sorte de théologie, comment dire ça, qui est toujours reliée à une expérience apostolique. Et je pense que ça, ça a été pour moi ma ligne directrice.
Un peu faire correspondre le fond et la forme?
Oui, on peut dire ça, le fond et la forme, parce que, évidemment, c'est pas si aisé, c'est pas uniquement au niveau de l'écriture, du travail d'écriture que je fais, et au niveau de la pédagogie, de l'enseignant que je suis, c'est évidemment aussi au niveau de l'existence, on est un peu en recherche de cette cohérence entre ce qu'on croit, ce qu'on pense, et ce qu'on tente de vivre. Et sur ma route, à un moment donné, s'est présentée la figure de saint Ignace et la Compagnie de Jésus, j'étais en train de faire ma thèse sur Maurice Blondel, je suis venu en France, j'ai habité dans notre maison qu'on avait à l'époque à Chantilly, où il y avait une immense bibliothèque et on accueillait des étudiants. Et je pense que c'est là où j'ai véritablement découvert ma vocation, j'ai fait les 30 jours. Même en faisant les 30 jours, je suis toujours revenu à cette figure de l'apôtre Paul. Être jésuite, être ignatien, c'est avoir une vraie vocation, un appel d'être apôtre, mais en même temps, je dirais, quelqu'un qui réfléchit, qui pense sa foi.
Comment se fait-il, vous qui êtes allemand, que vous soyez arrivé en France?
Oh, à l'époque, vous savez, je dirais, ça existe encore aujourd'hui. On avait les semestres libres, comme on disait. Donc, je ne logeais plus au séminaire universitaire à Bonn. Et je logeais à Paris et j'ai commencé à connaître un peu l'Église de France. C'était l'époque de l'Action catholique, j'ai travaillé dans une paroisse dans la banlieue parisienne et ça m'a fasciné, il y avait quelque chose, je dirais, de simple, je dirais de direct, peut-être le plus pauvre que je cherchais déjà dans mon existence. Et une société déjà largement déchristianisée, c'était les années 70, donc assez rapidement après le Concile. Et je trouvais qu'il y avait beaucoup de créativité, des tentatives pour s'affronter à cette société devenue autre.
Sur cet aspect-là aussi, Paul est un modèle pour vous. Vous n'êtes pas resté dans votre terre d'origine?
Ah oui, mais je pense que je vis aussi un tout petit peu aujourd'hui, encore comme itinérant. À la fois, je suis depuis très très longtemps dans la même communauté à Paris, mais je suis souvent, je dirais, en voyage et pour mon travail intellectuel et aussi pour le travail pastoral.
Parmi les voyages que vous avez faits, il y en a un, je crois, qui vous a marqué en Haute-Égypte.
Ah, ça, c'était l'époque, oui, vous avez raison de rappeler ça. Ça a été assez décisif. C'était pendant mon troisième an. Vous savez, dans la compagnie, on fait une troisième année de noviciat, comme dans d'autres congrégations aussi. C'est l'école du cœur et c'est l'affrontement, je dirais, d'une manière un peu à main nue, au réel. Et mon provincial d'alors m'avait envoyé en Égypte. Et j'ai passé surtout beaucoup de temps dans une toute petite communauté en Haute-Égypte. Je ne parle pas arabe. Mais je me suis inséré, je dirais, par les mains, en travaillant avec les mains, en étant simplement présent. C'était pour moi une époque tout à fait décisive.
Qu'est-ce que vous y avez découvert pendant cette époque?
D'abord, peut-être qu'on peut communiquer sans parole. En étant, je dirais, parmi les gens, en rendant des services, en travaillant avec ses mains, en ayant ouvert avec son visage. Après, bon, il y a des langues, on peut parler avec certains en anglais. Mais c'est une sorte d'expérience de grande pauvreté, cela. Pour un intellectuel, normalement, qui aime bien raisonner, réfléchir sur les choses, d'être un peu réduit, je dirais, presque à l'état de l'enfance.
Et cette expérience de pauvreté, est-ce que vous continuez aussi un peu à la vivre aujourd'hui, là, dans votre département de la Creuse, où vous êtes inséré?
Mais ça, c'est déjà pour moi une longue aventure qui a commencé dans les années 95. Il y avait un jésuite, le père Édouard Pousset, qui m'avait appelé à venir le voir. Et la Creuse est un département, un des départements français, ruraux, très déchristianisé. Au fond, depuis le 18e siècle, il y a eu un historien eudiste, le père Perroise, qui avait fait l'histoire religieuse un peu de ce département, en réfléchissant aux causes de la déchristianisation. Et depuis les années 46, il y a eu des investissements missionnaires très intéressants. Il y a la Mission de France qui est venue, il y a les Pradosiens qui sont là. Alors maintenant, avec un clergé extrêmement réduit, vous savez, pour les 120 1000 habitants du département, on est peut-être une dizaine de prêtres. Il y a deux doyennés, 6 paroisses, il y a des distances énormes. Donc il faut inventer un peu une nouvelle manière, je dirais, de faire église.
Dans cette nouvelle manière de faire église, je sais que vous avez mis sur pied des dizaines de groupes d'études bibliques.
Oui, il y a une vingtaine, 25 groupes que nous disons des groupes bibliques ou des groupes d'évangile. C'est des gens qui se retrouvent dans des maisons. Ça, c'est très important, pas uniquement dans une maison paroissiale, mais chez l'habitant. C'est un peu comme dans les récits évangéliques, ça permet de connaître en même temps l'environnement d'une personne. Et on lit avec une méthode extrêmement simple, la lecture attentive, d'abord tel ou tel péricope, tel ou tel texte, et après un certain temps, les gens se mettent à lire tout un évangile. On a formé des animateurs de groupes d'évangiles. Là, pour l'année prochaine, on a de nouveau prévu une formation avec des exercices précis d'animation, de lecture. Et ça crée un petit tissu, ça rend les gens un peu plus autonome d'un point de vue chrétien. Et ce sont aussi certains des acteurs dans les communautés chrétiennes qui restent, qui sont petites.
Et vous qui êtes un intellectuel, ça vous permet comme ça de faire des liens et des ponts entre ce que vous enseignez au Centre Sèvres à Paris et puis cette pastorale et cette pratique?
Oui, ça c'est un fruit extrêmement important, je dirais, pour moi. Alors concrètement, je passe quand même à peu près 3 mois dans le département, alors de manière interrompue, parce que j'ai mes enseignements à Paris et la direction des recherches de sciences religieuses, notre revue de théologie. Mais la Creuse est en même temps un peu un lieu, je dirais, de retrait, d'ermitage. Et j'anime un groupe de prêtres et d'animateurs pastoraux. On est une bonne dizaine. On se retrouve tous les 5 semaines, une matinée, avec un repas à la fin dans une communauté religieuse, et on relie au fond les événements qui se sont produits, et c'est un lieu de réflexion ecclésiologique et théologique très progressive, et moi ça me permet beaucoup de réfléchir d'un point de vue ecclésiologique. C'est un peu une sorte de d'ecclésiogenèse à laquelle j'assiste là.
Dans votre parcours, Christophe Théobald, il y a eu certainement des événements, voire des rencontres, qui vous ont permis de plonger dans la réception du Concile Vatican II.
Oui, il y a eu plusieurs choses. Je dirais d'abord, la première expérience remonte à mon adolescence. Parce qu'à la maison, pendant le Concile, entre 62 et 65, mes parents écoutaient le vendredi soir les nouvelles venu de Rome, il y avait un jésuite, le père Mario von Galli, qui pendant 10 minutes, un quart d'heure, faisait un reportage, et je suivais ça avec passion parce que je ne me suis jamais dit que l'Église ne pouvait pas être uniquement une Église liturgique ou une Église, je dirais, de mission, mais aussi une Église délibérante, et qu'on pouvait débattre sur des questions, qu'on pouvait avoir des oppositions, être en désaccord, et finalement quand même se mettre en accord, et c'est ça un peu le travail quand même, je dirais, de l'esprit. Ça m'avait fasciné, et je pense que c'est vraiment ça qui m'a permis de faire un passage à une foi plus adulte. J'avais 17 ans, 16 ans, 17 ans à l'époque.
Un peu comme ce que vous disiez tout à l'heure, la genèse de votre découverte du Concile Vatican II.
Et après, j'ai eu évidemment des cours sur Vatican II pendant mes études de théologie, en 66, quand j'ai commencé. Mais ensuite, j'ai retrouvé le Concile Vatican II au début de mon enseignement. Et notre père général, à l'époque, avait dit « La compagnie a beaucoup œuvré après le Concile de Trente, pour la réception de Trente, il faut aussi que nous travaillions pour la réception du Concile Vatican II. » Et je me suis mis à donner des cours très régulier sur le Concile Vatican II. Et après, on m'a demandé pour des conférences, etc. Finalement, ça aboutit à tel ou tel ouvrage.